Radio Django. Vivre à Lausanne.
Petits hommes ne seront pas là. Et elle sera toute seule avec une vieille marchande inoffensive. Une vieille marchande de pommes. Oh.
Vous l'avez sans doute reconnu, ce ricanement. Eh bien, c'est celui de la vilaine sorcière dans Blanche-Neige et les Sept Nains, premier long métrage des studios Disney sorti en 1937. Depuis la chasse aux sorcières en Europe pendant la Renaissance, les sorcières avaient leur chaudron et leur pouvoir maléfique. Ça a généralement mauvaise presse, hein, globalement. Pourtant, ça fait quelques temps que la figure de la sorcière revient en force, Claudia.
En effet, Fabien, les sorcières sortent du bois, mais elles sont loin des clichés des vieilles femmes sur un balai avec un nez crochu. Aujourd'hui, elles représentent l'incarnation des femmes qui refusent la soumission. Et elles sont féministes, politiques et brandissent l'égalité entre les femmes et les hommes comme l'un de leurs principaux combats.
Et ça semble particulièrement d'actualité en ces temps de préparation de la grève des femmes.
Ben oui, tout à fait. Et nous avons le plaisir de recevoir Élise, qui s'occupe du secteur nature et santé, qui a récemment interviewé une des figures de proue de ce mouvement. Il s'agit de l'États-Unienne Starhawk, une militante de longue date des milieux altermondialistes et écologistes. En 1982, elle a écrit « Rêver l'obscur, femme, magie et politique », son unique ouvrage traduit en français. En se revendiquant comme sorcière, elle jette un énorme pavé dans la mare d'un monde rationnel et scientifique. Et pourtant, en tissant des liens entre écoféminisme, néopaganisme et justice sociale, elle défend une manière inédite, créative et pragmatique de faire la politique. Alors, je donne la bienvenue à Élise.
Merci, bonsoir.
Donc Élise, tu as rencontré Starhawk. Comment s'est passée cette interview ?
Oui, alors en fait, dans le sillon de la grève féministe, le journal Moins a choisi de sortir un numéro sur l'écoféminisme qui paraîtra le mois prochain. Et comme j'avais fait venir Starhawk à Lausanne l'année dernière, l'équipe de rédaction m'a demandé si je pouvais la contacter pour une interview. Et c'est ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et du coup, en fait, après 45 minutes de discussion passionnante, c'était assez frustrant de n'en publier qu'une toute petite fraction. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de venir ici pour vous en proposer quelques extraits en bonus. Et pour ouvrir la discussion, je lui ai d'abord demandé qui étaient les sorcières et pourquoi elles sont des figures du mouvement féministe.
Et on les écoute.
The witches are kind of the remnant of the old pre-Christian earth-based goddess traditions of Europe.
Les sorcières sont les vestiges d'une tradition pré-chrétienne basée sur le culte de la nature en Europe. Cette tradition indigène n'a d'ailleurs pas disparu avec la christianisation de l'Europe. La connaissance des plantes médicinales s'est notamment transmise grâce aux sages-femmes, aux guérisseuses, à travers les us et coutumes populaires et la tradition orale.
And what was originally maybe seen as a beneficent, but also somewhat scary power, because nature is like that. Nature sustains us, but nature can also kill us. As Europe became Christianized, became more and more seen as the scary power, and eventually became the figure of the witch. The witch persecutions in Europe took place at a time when the old feudal order was.
Avec l'arrivée de la religion chrétienne en Europe, ces pratiques ont peu à peu été considérées comme dangereuses par le pouvoir en place, et leurs principales pratiquantes ont été persécutées sous couvert d'accusations de sorcellerie. La chasse aux sorcières en Europe a pris place à un moment de l'histoire où le système féodal était en train de céder sa place au système mercantile, qui peu à peu est devenu notre système capitaliste actuel. Elle a contribué de manière significative à la destruction du pouvoir des femmes, tout en faisant voler en éclats la solidarité au sein de la classe paysanne. À cette époque, l'émergence des rébellions de paysans qui se battaient contre les grands propriétaires terriens était perçue comme une sérieuse menace pour le système. Elle était combattue de manière extrêmement brutale. Et malgré cela, elle restait clairement menaçante.
Over and over and over again, when you really read the history, you're both amazed at tenacity and hope and at the brutality with which they were suppressed. But they were still very, very threatening. And that was also the time of religious ferment when.
Il s'agit également d'une période de forte agitation religieuse avec la réforme qui remettait en question le pouvoir et critiquait la corruption au sein de l'Église catholique. Là aussi, quand le pouvoir est menacé, c'est toujours utile d'avoir un bouc émissaire. La chasse aux sorcières a ancré très profondément dans notre culture un climat de suspicion envers le pouvoir et l'indépendance des femmes, qui est encore aujourd'hui perçu comme quelque chose de menaçant et néfaste.
Élise Starouk-Félien, entre sorcières et mouvement féministe, en Suisse, à quand remonte la dernière sorcière? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
En fait, il me semble qu'on est rarement conscient à quel point la Suisse a été au cœur de cette chasse aux sorcières qui a décimé quand même des dizaines de milliers de femmes entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et avec plus de 3500 exécutions, la Suisse romande est tristement championne d'Europe par rapport au nombre d'habitants. Il s'agit jusqu'à 80% des femmes, qui sont pour la plupart mortes suite à des séances de torture abominables. Et la dernière sorcière d'Europe a été exécutée à Glaris en 1782, donc on parle d'il y a à peine 300 ans. Elle s'appelait Anna Goldin, elle travaillait comme servante dans une famille bourgeoise, et son crime principal était d'être une belle femme et de résister aux avances du maître de maison. Aujourd'hui, on appellerait ça du harcèlement sexuel, et Anna aurait probablement plutôt eu le statut de victime et non de coupable. Donc, malgré tout cela, il a fallu attendre jusqu'à 2008 pour que le canton de Glaris reconnaisse officiellement son innocence. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment un exemple criant d'actualité, et particulièrement en ces temps de grève féministe.
Puis en parlant d'actualité, est-ce que les femmes qui s'engagent dans les mouvements féministes aujourd'hui en Suisse ou dans la région, est-ce qu'elles sont aussi vues comme sorcières?
Est-ce qu'on va les brûler sur le bûcher au milieu de la place du village?
J'espère bien que non, tout de même. Mais je ne sais pas si le public fait toujours le lien. Par contre, je rencontre de plus en plus de femmes militantes qui, elles, s'identifient à cette figure et qui se voient un peu dans ces femmes qui souvent avaient comme défaut principal d'être libres, indépendantes, un peu sauvages. Et d'ailleurs, Mona Cholet, qui est une journaliste franco-suisse, qui, je crois, vit encore à Genève aujourd'hui, elle vient de sortir un bouquin qui est vraiment passionnant et qui s'appelle « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ».
Ton deuxième extrait, Élise, de ton échange avec Starhawk.
Oui, alors en fait, dans son livre « Rêver l'obscur », Starhawk écrit que les bûchers ont créé les conditions du développement du capitalisme au XVIe siècle. Du coup, je lui ai demandé pourquoi la dévalorisation de la femme et du travail de reproduction sociale étaient des conditions indispensables à l'affirmation du capitalisme.
Starhawk, à ton micro.
Yeah, that it was really an attack on an older sensibility, one that saw the world as alive and interrelated and that valued relationships. It was an attack on the old relationships of people to the land.
C'était une attaque directe à une sensibilité ancienne qui voyait le monde comme un organisme vivant et interdépendant, et qui valorisait le lien entre l'humain et la nature. En 1998, Silvia Friderici a écrit un excellent ouvrage intitulé « Caliban et la sorcière », qui se base sur des recherches plus récentes, mais amène aux mêmes conclusions. Il explique en quoi la chasse aux sorcières a permis au capitalisme de se développer. Comme je le disais, cette époque a non seulement eu des conséquences dramatiques en brisant la solidarité paysanne, mais elle a aussi rendu suspect tout savoir qui ne recevait pas directement l'approbation de l'autorité. Ce faisant, elle a coupé le lien entre l'humain et la nature et transformé le paysage en ce qui était le début de l'agriculture industrielle dite scientifique, au même moment où la base de la richesse passait de la terre au capital. En mettant sur le carreau une large classe de sans-terre, elle a créé une classe de travailleurs aliénés qui étaient mûrs pour devenir des ouvriers d'usine corvéables pour le servir le capitalisme. Dans la première partie du Moyen-Âge, les femmes avaient plus facilement accès à la propriété et bénéficiaient d'un traitement plus égalitaire qu'après l'épisode de la chasse aux sorcières. Le rôle de la femme était alors relégué à des tâches qui avaient complètement perdu de la valeur dans le système capitaliste. Le travail reproductif, le soin aux enfants, aux vieux et aux malades, toutes ces tâches que la classe dirigeante n'était pas prête à rémunérer. Il s'agit en réalité d'une subvention que les femmes offrent gratuitement à la communauté.
You know, the owners and the owning classes didn't have to pay for. That was sort of the subsidy that women provided.
Dans cet extrait, Star Walk, Elise touche à un des points principaux aussi des revendications féministes à la grève des femmes du 14 juin. C'est la valorisation du travail non rémunéré qui, normalement, en majorité assumée par des femmes. Malgré l'évolution de la société, il y a encore beaucoup à faire. Quelles seraient des possibles pistes d'action, à ton avis, mais hors système capitaliste, vu qu'elle fait vraiment le lien entre capitalisme et féminisme?
Ben oui, justement, en fait, il y a quelques années, il y avait un peu cette proposition de dire qu'il fallait salarier le travail de reproduction, donc rémunérer ça. Puis à mon avis, c'est vraiment une fausse bonne idée, parce que ça part de le même constat de base où on dit que ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on peut monnayer. Et du coup, on ne met pas de valeur dans la vie en soi, dans le travail relationnel, etc. On le met uniquement par le fait qu'on peut le payer. Et en même temps, pourtant en Suisse, la plupart de la reconnaissance sociale passe par le travail et on travaille trop. Et donc pour moi, les pistes, elles sont plutôt à l'inverse, c'est-à-dire inciter les gens à travailler moins, diminuer le temps de travail, et autant chez les hommes que chez les femmes. Et puis évidemment, une autre piste qui me paraît assez évidente, c'est le congé parental partagé. C'est-à-dire ça va, à mon avis, beaucoup plus valoriser ce temps une fois qu'il sera réparti de manière équitable au sein de la famille.
Une certaine égalité aussi avec le congé paternité.
Exactement, c'est ça. Ouais. Et malheureusement, on voit que, en tout cas, ce n'est pas le Conseil fédéral qui pense ça en ce moment.
Disons, on n'y est pas encore prêt.
On n'y est pas encore.
Élise, dans ta rencontre avec Star Walk, vous avez parlé du lien entre la domination des femmes et les destructeurs de la nature.
Oui, ben en fait, c'est vraiment cette idée de l'écoféminisme, de lier la destruction de la nature et la domination des femmes comme en fait l'expression d'un même type de domination. Et c'est là où, l'écoféminisme considère que la racine du problème est la même. Et c'est ça que je trouve intéressant quand elle l'explique très bien, justement.
On écoute Star Walk.
I think one of the things that links capitalism, that links the destruction of nature and the destruction of women in capitalism, is the devaluation of life itself, of the material world, of human life, of pleasure, of bodily existence. That's a very deep split that goes back to the split between spirit and matter in Christianity in particular, and you know, it exists also in other religions and in certain Greek philosophies, but this idea that this world doesn't really count and there is some other better world.
Un des liens essentiels à mes yeux est la dévalorisation de la vie elle-même. C'est une séparation très profonde qui remonte à la séparation entre l'esprit et la matière, très présente dans la religion chrétienne en particulier, mais également dans d'autres religions. Cette idée selon laquelle le monde matériel ne compte pas vraiment, parce qu'il y a un autre monde, ailleurs, qui est meilleur et qui n'a pas tout ce foutu désordre lié à la chair et à l'animalité présente sur Terre. Les femmes sont ainsi identifiées à la nature et à la chair. Mais comme ces deux éléments n'ont pas de valeur dans l'au-delà, les femmes non plus. Ainsi, elles deviennent une classe facile à exploiter, de la même manière que la terre peut être exploitée. Et avec l'expansion du capitalisme, Dieu laisse peu à peu la place à un autre concept abstrait, mais ayant plus de valeur, le profit. C'est l'essence du capitalisme. Tout devient exploitable au service du profit. Et on voit la conséquence désastreuse aujourd'hui avec le changement climatique et les destructions inimaginables auxquelles on assiste actuellement. L'augmentation de la violence envers les femmes et l'érosion des droits des femmes surviennent en parallèle à cette crise écologique et ont à mes yeux les mêmes racines.
That creates a convenient class of people who can be exploited as the earth can be exploited. And in favor of this abstracted higher value that is profit. So where once it might have been God under capitalism, you know, the overarching abstraction that everything must defer to becomes profit. And that is the essence of the capitalist system. And everything is then fair game and exploitable in the service of profit. And we see that playing itself out now with climate change, with the incredible destruction that is allowed to go on of the planet's life support systems, and at the same time this rise in violence against women and this attempt to erode the rights of women.
On a bien compris, hein, Starhawk met bien en évidence le lien entre domination des femmes et la destruction de la nature. C'est aussi le cas ici dans notre région, Élise. Est-ce que c'est un point qui est abordé dans les mouvements écologistes de la région ?
Ben, je pense qu'il y a un réel intérêt pour le mouvement de l'écoféminisme. Et puis on l'a par exemple vu quand on a invité Starhawk l'année dernière, elle est venue à la maison de quartier Sougar pour faire une conférence. Il y avait plus de 250 personnes, ça fait sale comble. Et puis il y a eu plusieurs ouvrages qui sont sortis récemment. Ben, j'ai parlé de l'ouvrage de Mona Chollet, mais il y a aussi eu un autre livre qui a été écrit par Pascal Derme qui s'appelle Sœurs en écologie, qui retrace en fait l'histoire de plusieurs femmes qui sont dans ce mouvement de l'écoféminisme. Mais je pense que c'est quand même pas une évidence, c'est pas encore tout à fait dans le lien est pas forcément toujours évident, et c'est pour ça que je lui ai demandé en fait si les mouvements féministes actuels vont réussir à faire le lien entre les luttes féministes et les luttes écologistes. Et puis ben on va voir ce qu'elle nous répond.
I would like to see them get weaved together. You know, I think that they're important to one another because I think it's a strong feminist issue to protect the environment. Environmental degradation is one of the causes of the destruction of women's lives. It's a threat to.
Je serais ravie de les voir tisser des liens entre ces deux mouvements. Je pense qu'ils sont importants l'un à l'autre. Je pense que c'est un enjeu féministe essentiel de protéger l'environnement. Les dégradations écologiques sont l'une des causes de la destruction de la vie des femmes. C'est une menace pour les générations futures que nous éduquons. La crise écologique a des conséquences encore plus désastreuses sur les populations vulnérabilisées, c'est-à-dire très souvent les femmes et les enfants. Je pense que le mouvement écologiste doit aussi se rapprocher des luttes féministes. Je pense que pour arriver à faire basculer le système, on doit se pencher sur toute une palette de croyances, de valeurs et de préjugés qui dénigrent non seulement la terre, mais aussi les femmes. On ne peut pas contester que la moitié du problème. Cela inclut également les préjugés raciaux et l'ensemble des injustices sociales. Nous devons créer un monde viable, sain pour la nature et l'être humain, ce qui ne peut pas se faire dans un système qui se base sur l'oppression. La transition ne peut se faire par le sacrifice de la moitié de l'humanité au profit de l'autre. Elle doit se faire sur la base de la justice sociale.
Is also a healthy, viable human ecology, And that can't be based on oppression. It can't be based on sacrificing the good of some people for the profit of others. It has to be based on social justice.
Élise, on arrive à la fin de notre rencontre avec Starwalk, avec un dernier message qu'elle nous laisse.
Oui, ben justement, quand on est arrivé à la fin de notre interview, je lui ai demandé si elle avait quelque chose à ajouter ou un message à faire passer. Puis en fait, sa réponse m'a énormément touchée. Et en particulier en ce moment où les discours sur l'effondrement sont très présents dans les milieux écologistes.
Well, I think the one thing I would say is that I have learned from permaculture is again that nature is resilient, that there's also can be a feeling in environmental groups that people are the problem, that we are doomed to mess up everything that we touch. And I don't believe
grâce à la permaculture, j'ai appris que la nature est résiliente. Il y a certaines croyances au sein du mouvement écologiste que l'humain est l'unique problème, que nous sommes condamnés à foutre en l'air tout ce que nous touchons et que nous ferions mieux de disparaître. Personnellement, je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois que nous pouvons faire partie de la solution, mais que c'est possible uniquement si nous adressons le problème avec humilité, si nous sommes prêts à écouter et respecter le monde vivant, et si nous arrêtons de penser que tout nous est permis et que l'humain est là pour dominer le monde. Il y a de formidables exemples de personnes qui sont en train de régénérer les écosystèmes. Et à mes yeux, c'est ce que nous devons faire pour régler le problème climatique. Régénérer les écosystèmes à large échelle, y compris les écosystèmes humains. Il s'agit vraiment de rendre la vie plus riche, plus belle, de changer nos perspectives et de mettre de la valeur dans les relations plutôt que dans l'accumulation des choses. Il s'agit d'un message d'espoir. Et je pense que le mouvement qui vise à renverser le système actuel a besoin d'offrir aux gens un message d'espoir, des solutions qui sont positives et réalisables. L'effondrement et le désespoir ne sont pas des bons points de départ pour mobiliser les gens à passer à l'action.
It's a matter of making life much richer and more beautiful, of shifting our perspective to seeing value in relationships rather than in a collection of stuff, right?
Mm, yeah.
And, you know, it's tremendously hopeful. And I think a movement to counter the present crisis needs to offer people hope.
Yeah.
And things that they can do that are positive, because otherwise it's all gloom and doom and despair, and that's not a good. It's not a good place for mobilizing people and taking action.
Et on remercie infiniment Claudia et surtout toi, Élise, pour nous avoir proposé cette rencontre d'une figure de proue du mouvement écoféministe, l'états-unienne Starhawk, militante de longue date des milieux altermondialistes et écologistes. Vous dire encore que vous pouvez en savoir plus sur les sorcières et l'écoféminisme, si l'idée vous en dit. Vous pouvez lire le livre qu'on a cité tout à l'heure, Rêver l'obscur, femmes, magie et politique. Starhawk, édition Cambourakis dans les collections Sorcières, disponible par exemple à la librairie Basta. Une belle soirée à vous, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour l'invitation.
À bientôt, Élise.
Si, on va.
Les effluves de rhum dans ta voix font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus?
Et voilà.
Après tant d'années,
et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà,
c'est sûr,
et voilà.
C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
Et voilà.
souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide? Peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter.
Et voilà.
Après tant d'années,
et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà.
Chapeau pour la route à pied, nuet et nueté, diva aux pieds nus restera et
à vie.
Césaria et à la mort aussi, aux brigades, tu en brigades, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde. Césaria, tu nous as tous quand même bien nus, hein, tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité.
Et voilà, et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà, et voilà.
Après tant d'années.
Et voilà.
Vous l'avez reconnu, le Belge Stromae avec cette chanson Ave Césaria sur Radio Django. 18h28, voici La Rose des Vents.